Alfred de Musset, Le secret de Javotte, 1844. L'automne dernier, vers 8 heures du soir, deux jeunes gens revenant de la chasse suivaient à cheval la route de Noisy, à quelque distance de Luzarches. Derrière eux marchait un piqueur menant les chiens. Le soleil se couchait et dorait au loin la belle forêt de Carnelles, où le feu duc de Bourbon aimait à chasser. Tandis que le plus jeune des deux cavaliers, âgé d'environ 25 ans, trottait gaiement sur sa monture et s'amusait à sauter les haies, l'autre paraissait distrait et préoccupé. Tantôt il excitait son cheval et le frappait avec impatience, tantôt il s'arrêtait tout à coup et restait au pas en arrière, comme absorbé par ses pensées. À peine répondait-il au joyeux discours de son compagnon, qui de son côté le raillait de son silence. En un mot, il semblait livré à cette rêverie bizarre, particulière aux savants et aux amoureux, qui sont rarement où ils paraissent être. Arrivé à un carrefour, il mit pied à terre, et s'avançant au bord d'un fossé, il ramassa une petite branche de saule qui était enfoncée dans le sable assez profondément. Il détacha une feuille de cette branche et, sans qu'on l'aperçût, la glissa furtivement dans son sein. Puis, remontant aussitôt à cheval, « Pierre, dit-il au piqueur, prends le tour de bride et va-t'en au Clignet par le village. Nous rencontrerons mon frère et moi par la Garenne, car je vois qu'aujourd'hui Gitana n'est pas sage. Elle me ferait quelques sottises si nous rencontrions dans le chemin cru quelques troupeaux de bestiaux rentrant à la ferme. » Le piqueur obéit et prit avec ses chiens un sentier tracé dans les rochers. Voyant cela, le jeune Armand de Berville, ainsi se nommait le moins âgé des deux frères, partit d'un grand éclat de rire. « Parbleu, dit-il, mon cher Tristan, tu es d'une prudence admirable ce soir. N'as-tu pas peur que Gitana ne soit dévorée par un mouton ? Mais tu as beau faire, je parierais que malgré toutes les précautions, cette pauvre bête, d'ordinaire si tranquille, va te jouer quelque mauvais tour d'ici à une demi-heure. » « Pourquoi cela ? » demanda Tristan d'un ton bref et presque irrité. « Mais apparemment, répondit Armand en se rapprochant de son frère, parce que nous allons passer devant l'avenue de Renonval, et que ta jeune jument est sujette à caracoler quand elle voit la grille. Heureusement, ajouta-t-il en riant, et de plus belle, que Madame de Vernage est là, et que tu trouveras chez elle ton couvert mis, si Gitana te casse une jambe. « Mauvaise langue, dit Tristan, souriant à son tour un peu à contre-cœur. Mais qu'est-ce qui pourra donc te déshabituer de tes méchantes plaisanteries ?»« Mais je plaisante pas du tout, reprit Armand. Et quel mal y a-t-il à cela ? Elle a de l'esprit, cette marquise. Elle aime le passepoil, c'est de son âge. N'as-tu pas l'honneur d'être au service du roi dans le régiment des hussards noirs ? Si d'une part elle aime aussi la chasse, et si elle trouve que ton corps fait bon effet au soleil sur ta veste rouge, est-ce que c'est un péché mortel ? Écoute et serve-les, dit Tristan, que tu badines ainsi entre nous, si cela te plaît, rien de mieux. Mais pense sérieusement à ce que tu dis quand il y a un tiers pour l'entendre. Madame de Vernage est l'amie de notre mère. Sa maison est une des seules ressources que nous ayons dans le pays pour nous désennuyer de cette vie monotone. Qui t'amuse, toi, avocat sans cause ? Mais qui me tuerait si je la menais longtemps ? La marquise est presque la seule femme parmi nos rares connaissances. Oh, la plus agréable, ajouta Armand. Mais tant que tu voudras. Tu n'es pas fâché, toi-même, d'aller à Renonval lorsqu'on nous y invite ? Ce ne serait pas un trait d'esprit de notre part que de nous brouiller avec ces gens-là, et c'est ce que tes discours finiront par faire si tu continues à jaser au hasard. Tu sais très bien que je n'ai pas plus qu'un autre la prétention de plaire à Madame de Vernage. Prends garde à Gitana, s'écria Armand. Regarde comme elle dresse les oreilles. Oh, je te dis qu'elle sent la marquise du lieu. Trêve de plaisanterie. Retiens ce que je te recommande et tâche d'y penser sérieusement. Bon, je pense, dit Armand, et très sérieusement, que la marquise est très bien en manches plates et que le noir lui va à merveille. Mais à quel propos cela? Ben, à propos de manches. Est-ce que tu te figures qu'on ne voit rien dans ce monde? L'autre jour, en causant dans le bateau, est-ce que je ne t'ai pas entendu très clairement dire que le noir était ta couleur? Et cette bonne marquise, sur ce renseignement, n'a-t-elle pas eu la grâce de monter dans sa chambre en rentrant et de redescendre galamment avec la plus noire de toutes ses robes? Mais qu'y a-t-il d'étonnant? N'est-il pas tout simple de changer de toilette pour dîner? Prends garde, Gitana, te dis-je. Elle est capable de s'emporter et de te mener tout droit, malgré toi, à l'écurie de Renonval. Et la semaine dernière, à la fête, cette même marquise, toujours de noir vêtue, n'a-t-elle pas trouvé naturel de m'installer dans la grande calèche avec mon chien, monsieur le curé, pour grimper dans ton tilbury, au risque de montrer sa jambe? Mais qu'est-ce que cela prouve? Il fallait bien que l'un de nous deux subisse cette corvée. Oui, mais cet un, c'est toujours moi. Je m'en plains pas, je suis pas jaloux. Mais pas plus tard qu'hier, au rendez-vous de chasse, n'a-t-elle pas imaginé de quitter sa voiture et de me prendre mon propre cheval, que je lui ai cédé avec un désintéressement admirable, pour qu'elle puisse galoper dans les bois à côté de monsieur l'officier? Plains-toi donc de moi. Je suis ta providence. Au lieu de te renfermer dans tes dénégations, tu me devrais, honnêtement parlant, ta confiance et tes secrets. Mais quelle confiance veux-tu qu'on ait dans un étourdi tel que toi, et quel secret veux-tu que je te dise s'il n'y a rien de vrai dans tes comptes? Ah, prends garde à Gitana, mon frère. Mais tu m'impatientes avec ton refrain, et quand il serait vrai que j'eusse fantaisie d'aller ce soir faire une visite à Renonval, qu'y aurait-il d'extraordinaire? Aurais-je besoin d'un prétexte pour te prier d'y venir avec moi ou te rencontrer seul à la maison? Non, certainement. De même que si nous venions à rencontrer madame de Vernage, se promenant devant son avenue, il n'y aurait rien là non plus de surprenant. Le chemin que tu nous fais prendre est bien le plus long, il est vrai, mais qu'est-ce que ce n'est qu'un quart de lieue de plus ou de moins en comparaison de l'éternité? La marquise de nous avoir entendu son nez du corps, il serait bien juste qu'elle prit le frais sur la route en compagnie de son inévitable adorateur et voisin, monsieur de la Bretonnière. J'avoue, dit Tristan, bien aise de changer de texte, que ce monsieur de la Bretonnière m'ennuie cruellement. Semble-t-il convenable qu'une femme d'autant d'esprit que madame de Vernage se laisse accaparer par un sot et traîne partout une pareille ombre? « Il est certain, répondit Armand, que le personnage est lourd et indigeste. C'est un vrai hobereau dans la force du terme, créé et mis au monde pour l'état de voisin. Voisiné est son lot, c'est même presque sa science, car il voisine comme personne ne le fait. Jamais je n'ai vu un homme sérieux mieux établi que lui hors de chez soi. » Si on va dîner chez madame de Vernage, il est au bout de la table, au milieu des enfants. Il chuchote avec le gouvernante, il donne de la bouillie aux petits, et remarque bien que ce n'est pas un pique-assiette ordinaire et classique qui se croit obligé de rire si la maîtresse du logis dit un bon mot. Il serait plutôt disposé, s'il osait, à tout blâmer et à tout contrecarrer. S'il s'agit d'une partie de campagne, jamais il ne manquera de trouver que le baromètre est invariable. Si quelqu'un cite une anecdote ou parle d'une curiosité, il a vu quelque chose de bien mieux, Mais il ne daigne pas dire quoi et se contente de hocher la tête avec une modestie à le souffleter. La sommante créature! Ah, je ne sais pas en vérité s'il est possible de causer un quart d'heure durant avec Madame de Vernage quand il est là, sans que sa tête inquiète et effarouchée vienne se placer entre elle et vous. Il n'est certes pas beau, il n'a pas d'esprit. Les trois quarts du temps, il ne dit mot, et par une faveur spéciale de la Providence, il trouve moyen, en se taisant, d'être plus ennuyeux qu'un bavard, rien que par la façon dont il regarde parler les autres. Mais que lui importe? Il ne vit pas, il assiste à la vie, et tâche de guérir, de gêner, de décourager et d'impatienter les vivants. Avec tout cela, la marquise le supporte. Elle a la charité de l'écouter, de l'encourager. Oh, je crois ma foi qu'elle l'aime et qu'elle ne s'en débarrassera jamais. Qu'entends-tu par là? Demanda Tristan, un peu troublé à ce dernier mot. Crois-tu qu'on puisse aimer un personnage semblable? Non, pas d'amour, reprit Ferdinand Ardan avec un air d'indifférence railleuse. Mais enfin, ce pauvre homme n'est pas non plus un monstre. Il est garçon et fort à l'aise. Il a, comme nous, un petit castel, une petite meute et un grand vieux carrosse. Il possède sur tout autre, près de la marquise, cet incomparable avantage que donnent une habitude de 10 ans, une obsession de tous les jours. Un nouveau venu, un officier en congé, permets-moi de te le dire tout bas, peut éblouir et plaire en passant. Mais celui qui est là tous les jours, à quinte et quatorze, par état, sans compter l'industrie, comme dit Basile. Tandis que les deux frères causaient ainsi, ils avaient laissé les bois derrière eux et commençaient à entrer dans les vignes. Déjà, ils apercevaient sur le coteau le clocher du village de Renonval. Madame de Vernage, continua Armand, a 100 belles qualités, mais c'est une coquette. Elle passe pour dévote et elle a un chapelet béni accroché à son étagère. Elle aime assez les fleurettes. Ne t'en déplaise, c'est à mon avis une femme difficile à deviner et passablement dangereuse. Oh, cela est possible, dit Tristan. Oh, et même probable, reprit son frère. Je suis pas fâché que tu le penses comme moi, et je te dirai volontiers à mon tour. Parlons sérieusement. J'ai depuis longtemps occasion de la connaître et de l'étudier de près. Toi, tu viens ici pour quelques jours. Tu es un jeune et beau garçon, elle est une belle et spirituelle femme. Tu ne sais que faire, elle te plaît, tu lui en comptes et elle te laisse dire. Moi, qui veux la voir l'hiver comme l'été, à Paris comme à la campagne? Oh, je suis moins confiant, et elle le sait bien. C'est pourquoi elle me prend mon cheval et me laisse en tête-à-tête avec le curé. Ses grands yeux noirs, qu'elle baisse vers la terre avec une modestie parfois si sévère, savent se relever vers toi, j'en suis sûr, bien que vous, lorsque vous courez la forêt, et je dois convenir que cette femme a un grand charme. Elle a tourné la tête, à ma connaissance, à 3 ou 4 pauvres petits garçons qui ont failli en perdre l'esprit. Mais veux-tu que je t'explique ma pensée? Je te dirai, en style de Scudéry, qu'on pénètre assez facilement jusqu'à l'antichambre de son cœur, mais que l'appartement est toujours fermé, peut-être parce qu'il n'y a personne. Oh, mais si tu ne te trompais pas, dit Tristan, ce serait un assez vilain caractère. Non pas à son avis. Qu'a-t-on à lui reprocher? Est-ce sa faute si on devient amoureux d'elle? Bien qu'elle n'ait guère plus de 30 ans, elle dit à qui veut l'entendre qu'elle a renoncé depuis qu'elle est veuve au plaisir du monde, qu'elle veut vivre en paix dans sa terre, monter à cheval et prier Dieu. Elle fait l'aumône et va à confesse. Or, toute femme qui a un confesseur, si elle n'est pas sincèrement et véritablement religieuse, est la pire espèce de coquette que la civilisation ait inventée. Une femme pareille, sûre d'elle-même, belle encore et jouissant volontiers des petits privilèges de la beauté, sait composer sans cesse, non avec sa conscience, mais avec sa prochaine confession. Au moment même où elle semble se livrer avec le plus charmant abandon aux cajoleries qu'elle aime tout bas, elle regarde si le bout de son pied est suffisamment caché sous sa robe et calcule la place où elle peut laisser prendre sans péché un baiser sur sa mitaine. « À quoi bon, diras-tu ? Si la foi lui manque, pourquoi ne pas être franchement coquette ? Si elle croit, pourquoi s'exposer à la tentation ? Parce qu'elle la brave et s'en amuse. Et en effet, on ne saurait dire qu'elle soit sincère ni hypocrite. Elle est ainsi et elle plaît. Ses victimes passent et disparaissent. La bretonnière, le silencieux, restera jusqu'à sa mort, très probablement, sur le seuil du temple où ce sphinx aux grands yeux rend ses oracles et respire l'encens. Tristan, pendant que son frère parlait, avait arrêté son cheval. La grille du château de Renonval n'était plus éloignée que d'une centaine de pas. Devant cette grille, comme Armand l'avait prévu, Madame de Vernage se promenait sur la pelouse. Mais elle était seule, comme l'ordinaire. Tristan changea tout à coup de visage. « Bon, écoute, Armand, dit-il, je t'avoue que je l'aime. Tu es homme, tu as du cœur. Tu sais aussi bien que moi que devant la passion, il n'y a ni loi ni conseil. Tu n'es pas le premier qui me parle ainsi d'elle. » On m'a dit tout cela, mais je n'en puis rien croire. Je suis subjugué par cette femme. Elle est si charmante, si aimable, si séduisante quand elle veut. Oh, je le sais très bien, dit Armand. Non, s'écria Tristan, mais je ne puis croire qu'avec tant de grâce, de douceur, de piété, car enfin elle fait l'aumône, comme tu dis, et remplit ses devoirs, je ne puis, je ne veux pas croire qu'avec tous les dehors de la franchise de la bonté, elle puisse être telle que tu te l'imagines. Mais il n'importe, je cherchais un motif pour te laisser en chemin et pour rester seul. J'aime mieux m'en fier à ta parole. Je vais à Renonval. Allez, retourne au Clignet. Si notre bonne mère s'inquiète de ne pas me voir avec toi, tu lui diras que j'ai perdu la chasse, que mon cheval est malade, enfin, ce que tu voudras. Je ne veux faire qu'une courte visite, et je reviendrai sur le champ. Mais pourquoi ce mystère, s'il en est ainsi ? Ben parce que la marquise elle-même reconnaît que c'est le plus sage. Les gens du pays sont bavards, sots et importuns comme trois petites villes ensemble. Garde-moi le secret. À ce soir. Sans attendre une réponse, Tristan partit au galop. Demeuré seul, Armand changea de route et prit un chemin de traverse qui le menait plus vite chez lui. Ce n'était pas, on le pense bien, sans déplaisir ni sans une sorte de crainte qu'il voyait son frère s'éloigner. Jeune d'année, mais déjà mûri par une précoce expérience du monde, Armand de Berville, avec un esprit souvent léger en apparence, avait beaucoup de sens et de raison. Tandis que Tristan, officier distingué dans l'armée, courait en Algérie les chances de la guerre et se livrait parfois aux dangereux écarts d'une imagination vive et passionnée, Armand restait à la maison et tenait compagnie à sa vieille mère. Tristan le raillait parfois de ses goûts sédentaires et l'appelait « Monsieur l'abbé », prétendant que, sans la Révolution, il aurait porté la tonsure en la qualité de cadet, mais cela ne le fâchait pas. « Va pour le titre, répondait-il, mais donne-moi le bénéfice. » La baronne de Berville, la mère, veuve depuis longtemps, habitait le Marais en hiver, et dans la belle saison, la petite terre des Clignay. Ce n'était pas une maison assez riche pour entretenir un grand équipage, mais comme les jeunes gens aimaient la chasse et que la baronne adorait ses enfants, on avait fait venir des foxhounds d'Angleterre. Quelques voisins avaient suivi cet exemple, et ces petites meutes réunies formaient de quoi composer des chasses passables dans les bois qui entouraient la forêt de Carnel. Ainsi s'était établi rapidement entre les habitants des Clignay et ceux de deux ou trois châteaux des environs des relations amicales et presque intimes. Madame de Vernage, comme on vient de le voir, était la reine du canton. Depuis le sieur de Franconville et le magistrat de Beauvais jusqu'à l'élégant un peu arriéré de Lusarche, tout rendait hommage à la belle marquise, voire même le curé de Noisy. Renonval était le rendez-vous de ce qu'il y avait de personnes notables dans l'arrondissement de Pontoise. Toutes étaient d'accord pour vanter, comme Tristan, la grâce et la bonté de la châtelaine. Personne ne résistait à l'empire souverain qu'elle exerçait, comme on dit, sur les cœurs. Et c'est précisément pourquoi Armand était fâché que son frère ne revint pas souper avec lui. Il ne lui fut pas difficile de trouver un prétexte pour justifier cette absence et de dire à la baronne en rentrant que Tristan s'était arrêté chez un fermier avec lequel il était en marché pour un coin de terre. Madame de Berville, qui ne dînait qu'à 9 heures, quand ses enfants allaient à la chasse, afin de prendre son repas en famille, voulut attendre pour se mettre à table que son fils aîné fût revenu. Armand, mourant de faim et de soif, comme tout chasseur qui a fait son métier, parut médiocrement satisfait de ce retard qu'on lui imposait. Peut-être craignait-il à part lui que la visite à Renonval ne se prolongeât plus longtemps qu'il n'avait été dit. Quoi qu'il en fût, il prit d'abord, pour se donner un peu de patience, un acompte sur le dîner, puis il alla visiter ses chiens et jeter à l'écurie le coup d'œil du maître, et revint s'étendre sur un canapé, déjà à moitié endormi par la fatigue de la journée. La nuit était venue et le temps s'était mis à l'orage. Madame de Berville, assise, comme de coutume, devant son métier à tapisserie, regardait la pendule, puis la fenêtre où ruisselait la pluie. Une demi-heure s'écoula lentement, et bientôt vint l'inquiétude. « Mais que fait donc ton frère ?» disait la baronne. « Il est impossible qu'à cette heure et par un temps semblable, il s'arrête si longtemps en route. Oh, quelque accident lui sera arrivé. Je vais envoyer à sa rencontre. » « Bon, c'est inutile, » répondait Armand. « Je vous jure qu'il se porte aussi bien que nous et peut-être mieux, car, ben, voyant cette pluie, il se sera sans doute fait donner à souper dans quelque cabaret de Noisy, pendant que nous sommes à l'attendre. » L'orage redoublait, le temps se passait. De guerre lasse, on servit le dîner. Mais il fut triste et silencieux. Armand se reprochait de laisser ainsi sa mère dans une incertitude cruelle et qui lui semblait inutile. Mais il avait donné sa parole. De son côté, Madame de Berville voyait aisément sur le visage de son fils l'inquiétude qui l'agitait. Elle n'en pénétrait pas la cause, mais l'effet ne lui échappait pas. Habituée à toute la tendresse et aux confidences même d'Armand, elle sentait que s'il gardait le silence, c'est qu'il y était obligé. Pour quelle raison ? Elle l'ignorait, mais elle respectait cette réserve, tout en ne pouvant s'empêcher d'en souffrir. Elle levait les yeux vers lui d'un air craintif et presque suppliant, puis elle écoutait gronder la foule et haussait les épaules en soupirant. Ses mains tremblaient malgré elle de l'effort qu'elle faisait pour paraître tranquille. À mesure que l'heure avançait, Armand se sentait de moins en moins le courage de tenir sa promesse. Le dîner terminé, il n'osait se lever. La mère et le fils restèrent longtemps seuls, appuyés sur la table desservie, et se comprenant sans ouvrir les lèvres. Vers 11 heures, la femme de chambre de la baronne étant venu apporter les bougeoirs, Madame de Berville souhaita le bonsoir à son fils et se retira dans son appartement pour dire ses prières accoutumées. Mais que fait-il en effet, cet étourdi garçon? Se disait Armand, tout en se débarrassant pour se mettre au lit de son attirail de chasseur. Rien de bien inquiétant, cela est probable. Il fait les yeux doux à Madame de Vernage et subit le silence imposant de la bretonnière. Est-ce bien sûr? Il me semble qu'à cette heure-ci, la bretonnière doit être dans son coche, en route pour aller se coucher. Il est vrai que Tristan est peut-être en route aussi. J'en doute pourtant, le chemin n'est pas bon, il pleut bien fort pour monter à cheval. D'une autre part, il y a d'excellents lits à Renonval, et une marquise si polie peut certainement offrir un asile à un capitaine surpris par l'orage. Il est probable, tout bien considéré, que Tristan ne reviendra que demain. Cela est fâcheux pour deux raisons. D'abord, cela inquiète notre mère, et puis c'est toujours une chose dangereuse que ces abris trouvés chez une voisine. Il n'y a rien qui porte moins conseil qu'une nuit passée sous le toit d'une jolie femme, et on ne dort jamais bien chez les gens dont on rêve. Quelquefois même, on ne dort pas du tout. Que va-t-il advenir de Tristan s'il se prend tout de bon pour cette coquette? Il a du cœur pour deux, mais tant pis. Oh, elle trouvera aisé de le jouer, trop aisé peut-être, c'est là mon espoir. Elle dédaignera d'en agir faussement envers un si loyal caractère. Mais après tout, se disait encore Armand en soufflant sur sa bougie, qu'il revienne quand il voudra, il est beau, il est brave. Il s'est tiré d'affaire à Constantine, il s'en tirera à Renonval. Il y avait longtemps que toute la maison reposait et que le silence régnait dans la campagne, lorsque le bruit des pas d'un cheval se fit entendre sur la route. Il était 2 heures du matin. Une voix impérieuse cria qu'on ouvrit, et tandis que le garçon d'écurie levait lourdement, l'une après l'autre, les barres de fer qui retenaient la grande porte, les chiens se mirent, selon leur coutume, à pousser de longs gémissements. Armand, qui dormait de tout son cœur, réveillé en sursaut, vit tout à coup devant lui son frère, tenant un flambeau et enveloppé d'un manteau dégouttant de pluie. « Bon, tu rentres à cette heure-ci, lui dit-il. Il est bien tard ou bien matin. » Tristan s'approcha de lui, lui serra la main, et lui dit avec l'accent d'une colère presque furieuse. « Tu avais raison, c'est la dernière des femmes, et je la reverrai de ma vie. » Après quoi, il sortit brusquement. Chapitre 2. Malgré toutes les questions, toutes les instances que put faire Armand, Tristan ne voulut donner à son frère aucune explication des étranges paroles qu'il avait prononcées en rentrant. Le lendemain, il annonça à sa mère que ses affaires le forçaient d'aller à Paris pour quelques jours et donna ses ordres en conséquence. Il avait le dessein de partir le soir même. « Il faut convenir, disait Armand, que tu en agis avec moi d'une façon un peu cavalière. Tu me fais la moitié d'une confidence et tu t'en vas d'un jour à l'autre avec le reste de ton secret. Que veux-tu que je pense de ce départ impromptu ?»« Bon, ce qu'il te plaira, répondit Tristan, avec une indifférence si tranquille qu'elle semblait n'avoir rien emprunté. Tu ne feras que perdre ta peine. Oui, j'ai eu un mouvement de colère, il est vrai, pour une bagatelle, une querelle d'amour propre, une bouderie, comme tu voudras l'appeler. La bretonnière m'ennuyait. La marquise était de mauvaise humeur, l'orage m'a contrarié, je suis revenu je ne sais pas pourquoi, et je t'ai parlé sans savoir ce que je disais. Je conviendrai bien, si tu veux, qu'il y a un peu de froid, oui, entre la marquise et moi, mais à la première occasion, tu nous verras amis comme devant. Tout cela est bel et bon, répliquait Armand, mais tu ne parlais pas hier par énigme quand tu m'as dit « c'est la dernière des femmes ». Il y a la mauvaise humeur qui tienne, Quelque chose est arrivé que tu caches. Mais que veux-tu qu'il me soit arrivé ? Demandait Christan. À cette question, Armand baissait la tête et restait muet. Car en pareille circonstance, du moment que son frère se taisait, toute supposition, même faite en plaisantant, pouvait être aisément blessante. Vers le milieu de la journée, une calèche découverte entra dans la cour des Clignets. Un petit homme, d'assez mauvaise tournure, à l'air gauche et endimanché, descendit aussitôt de la voiture, baissa lui-même le marchepied et présenta la main à une grande et belle femme, mise simplement et avec goût. C'était Madame de Vernage et la Bretonnière qui venaient faire visite à la baronne. Tandis qu'ils montaient le perron où Madame de Berville vint les recevoir, Armand observa le visage de son frère avec un peu de surprise et beaucoup d'attention. Mais Tristan le regarda en souriant, comme pour lui dire « Tu vois bien qu'il n'y a rien de nouveau. » À la tournure aisée que prit la conversation, aux politesses froides mais sans nulle contrainte qu'échangèrent Tristan et la marquise, il ne semblait pas, en effet, que rien d'extraordinaire se fût passé la veille. La marquise apportait à Madame de Berville, qui aimait les oiseaux, un nid de rouge-gorge. La Bretonnière l'avait dans son chapeau. On descendit dans le jardin et on alla voir la volière. La Bretonnière, bien entendu, donna le bras à la baronne. Les deux jeunes gens restèrent près de Madame de Vernage. Elle paraissait plus gaie que de coutume. Elle marchait au hasard de côté et d'autre, sans respect pour le buis de la baronne et tout en se faisant un bouquet au passage. « Eh bien, messieurs, dit-elle, quand chassons-nous ? » Armand attendait cette question pour entendre Tristan annoncer son départ. Il l'annonça effectivement du ton le plus calme. Mais en même temps, il fixa sur la marquise un regard pénétrant, presque dur et offensif. Elle ne parut y faire aucune attention et ne lui demanda même pas quand il comptait revenir. « En ce camp-là, reprit-elle, monsieur Armand, vous serez le seul représentant des Berville que nous verrons à Renonval, car je suppose que nous vous aurons. » La Bretonnière dit qu'il a découvert avec les lunettes de mon garde une espèce de cochon sauvage à qui la barbe vient comme aux oiseaux les plumes. « Pas du tout, dit la Bretonnière, c'est une sorte de truie chinoise de couleur noire appelée tonquin. Lorsque ces animaux quittent la basse-cour et s'habituent à vivre dans les bois... »« Oui, dit la marquise, ils deviennent farouches, et à force de manger du gland, les défenses leur poussent au bout du museau. » « C'est de toute vérité, répondit la Bretonnière, non pas, il est vrai, à la première, ni même à la seconde génération, mais il suffit que le fait existe, » ajouta-t-il d'un air satisfait. « Sans doute, reprit Madame de Vernage, et si un homme s'avisait de faire comme mesdames les tonquines, de s'installer dans une forêt, il en résulterait que ses petits-enfants auraient des cordes sur la tête. » Et ce qui prouve, continua-t-elle en frappant de son bouquet sur la main de Tristan, qu'on a grand tort de faire le sauvage, cela ne réussit à personne. Cela est encore vrai, dit la Bretonnière, la sauvagerie est un grand défaut. Elle vaut pourtant mieux, répondit Tristan, qu'une certaine espèce de domesticité. La Bretonnière ouvrait de grands yeux, ne sachant trop s'il devait se fâcher. « Oui, dit Madame de Berville à la marquise, vous avez bien raison. Grondez-moi ce méchant garçon qui est toujours sur les grands chemins et qui veut encore nous quitter ce soir pour aller à Paris. Mais défendez-lui donc de partir. » Madame de Vernage, qui tout à l'heure n'avait pas dit un mot pour essayer de retenir Tristan, se voyant ainsi priée de le faire, imite aussitôt toute l'insistance et toute la bonne grâce dont elle était capable. Elle prit son plus doux regard et son plus doux sourire pour dire à Tristan qu'il se moquait, qu'il n'avait point d'affaire à Paris, que la curiosité d'une chasse au Tonquin devait l'emporter sur tout au monde, qu'enfin elle le priait officiellement de venir déjeuner le lendemain à Renonval. Tristan répondait à chacun de ses compliments par un de ces petits saluts insignifiants qu'ont inventés les gens qui ne savent pas quoi dire. Il était clair que sa patience était mise à une cruelle épreuve. Madame de Vernage n'attendit pas un refus qu'elle prévoyait, et dès qu'elle eut cessé de parler, elle se retourna et s'occupa d'autre chose, exactement comme si elle eût répété une comédie et que son rôle eût été fini. « Mais que signifie tout cela ?» se disait toujours Armand. « Mais quel est celui qui en veut à l'autre? Est-ce mon frère? Est-ce la bretonnière? Et que vient faire ici la marquise ?» La façon d'être de Madame de Vernage était en effet difficile à comprendre. Tantôt elle témoignait à Tristan une froideur et une indifférence marquées, tantôt elle paraissait le traiter avec plus de familiarité et de coquetterie qu'à l'ordinaire. « Cassez-moi donc cette branche-là, lui disait-elle. Cherchez-moi du muguet. J'ai du monde ce soir, je veux être tout en fleurs. Je compte mettre une robe botanique et avoir un jardin sur la tête. » Tristan obéissait. Il le fallait bien. La marquise se trouva bientôt avoir une véritable botte de fleurs, mais aucune ne lui plaisait. « Non, vous n'êtes pas connaisseur, disait-elle, vous êtes un mauvais jardinier. Vous brisez tout et vous croyez bien faire parce que vous vous piquez les doigts. Mais c'est pas cela, vous ne savez pas choisir. » En parlant ainsi, elle effeuillait les branches, puis les laissait tomber à terre, et les repoussait du pied en marchant, avec ce dédain sans souci qui fait quelquefois tant de mal le plus innocemment du monde. Il y avait au milieu du parc une petite rivière avec un pont de bois qui était brisé, mais dont il restait encore quelques planches. La bretonnière, selon sa manie, déclara qu'il y avait danger à s'y hasarder et qu'il fallait revenir par un autre chemin. La marquise voulut passer et commençait à prendre les devants, quand la baronne lui représenta qu'en effet ce pont était vermoulu et qu'elle courait le risque d'une chute assez grave. « Bah !» dit Madame de Vernage, « vous calomniez vos planches pour faire les honneurs de la profondeur de votre rivière. Et si je faisais comme Condé, qu'est-ce qu'il arriverait donc ?» Devant monter à cheval, au retour, elle avait à la main une cravache. Elle la jeta de l'autre côté de l'eau dans une petite île. « Maintenant, messieurs, reprit-elle, voilà mon bâton jeté à l'ennemi. Qui de vous ira le chercher ?» C'est fort imprudent, dit la bretonnière. Cette cravache est fort jolie. La pomme en est très bien ciselée. Y aura-t-il au moins une récompense honnête? Demanda Armand. Fi donc, s'écria la marquise, vous marchandez avec la gloire. Et vous, monsieur le hussard, ajouta-t-elle en se tournant vers Tristan, qu'est-ce que vous dites? Passerez-vous? Tristan semblait hésiter, non par crainte du danger ni du ridicule, mais par un sentiment de répugnance à se voir ainsi provoqué pour une semblable bagatelle. Il fronça le sourcil et répondit froidement « Non, madame. » « Hélas !» dit Madame de Vernage en soupirant, « si mon pauvre Fanor était là, il m'aurait déjà rendu ma cravache. » La bretonnière, tâtant le pont avec sa canne, le contemplait d'un air de réflexion profonde. Appuyée nonchalamment sur la poutre brisée qui servait de rampe, la marquise s'amusait à faire plier les planches en se balançant au-dessus de l'eau. Elle s'élança tout à coup, traversa le pont avec une vivacité et une légèreté charmantes et se mit à courir dans l'île. Armand avait voulu la prévenir, mais son frère lui prit le bras et, se mettant à marcher à grands pas, l'entraîna à l'écart dans une allée. Et là, dès que les deux jeunes gens furent seuls, « La patience m'échappe, dit Tristan. J'espère que tu ne me crois pas assez sot pour me fâcher d'une plaisanterie. Mais cette plaisanterie a un motif. Sais-tu ce qu'elle vient chercher ici ? Elle vient me braver, jouer avec ma colère et voir jusqu'à quel point j'endurerai son audace. Elle sait ce que signifie son froid persiflage. Misérable cœur, Méprisable femme, qui au lieu de respecter mon silence et de me laisser m'éloigner d'elle en paix, vient promener ici sa petite vanité et se faire une sorte de triomphe d'une discrétion qu'on ne lui doit pas. Mais explique-toi, hein, dit Armand, qu'y a-t-il? De sera tout, car aussi bien tu t'y es intéressé, puisque tu es mon frère. Hier au soir, pendant que nous causions sur la route, et que tu me disais tant de mal de cette femme, je suis descendu de cheval au carrefour des roches. Il y avait à terre une branche de saule que tu ne m'as pas vu ramasser. Cette branche de saule, c'était Madame de Vernage qui l'avait enfoncée dans le sable, se promenant le matin. Elle riait tout à l'heure en m'en faisant casser d'autres arbres. Mais celle-là avait un sens. Elle voulait dire que la gouvernante et les enfants de la marquise étaient allés chez son oncle à Beaumont, que la bien-retenière ne viendrait pas dîner, et que, si je craignais d'éveiller les gens en sortant de Renonval un peu plus tard, je pouvais laisser mon cheval chez le bonhomme du Éloi. « Peste !» dit Armand. « Tout cela dans un brin de saule ?»« Oui, et plût à Dieu que j'eusse repoussé du pied ce brin de saule, comme elle vient de le faire pour nos fleurs. » Mais je te l'ai dit, et tu l'as vu toi-même, je l'aimais, j'étais sous le charme. Quelle bizarrerie! Oui, hier encore, je l'adorais, et j'étais tout amour, j'aurais donné mon sang pour elle, et aujourd'hui... Eh bien, aujourd'hui... Écoute, il faut, pour que tu me comprennes, que tu saches d'abord une petite aventure qui m'est arrivée l'an passé. Tu sauras donc qu'au bal de l'opéra, j'ai rencontré une espèce de grisette, de modiste, je ne sais quoi. Je suis venu à faire sa connaissance par un hasard assez singulier. Elle était assise à côté de moi, je ne faisais nulle attention à elle, lorsque Saint-Aubin, que tu connais, va me dire bonsoir. Au même instant, ma voisine, comme effrayée, cacha sa tête derrière mon épaule. Elle me dit à l'oreille qu'elle me suppliait de la tirer d'embarras, de lui donner le bras pour faire un tour de foyer. Je ne pouvais guère m'y refuser. Je me levai avec elle et je quittai Saint-Aubin. Elle me conta là-dessus qu'il était son amant, qu'elle avait peur de lui, qu'il était jaloux, enfin qu'elle le fuyait. Je me trouvais ainsi tout à coup joué aux yeux de Saint-Aubin le rôle d'un rival heureux, car il avait reconnu sa grisette et nous suivait d'un air mécontent. Que te dirais-je? Il me parut plaisant de prendre à peu près au sérieux ce rôle que l'occasion m'offrait. J'emmenai souper la petite fille. Saint-Aubin, le lendemain, vint me trouver et voulut se fâcher. Je lui ris au nez et je n'eus pas de peine à lui faire entendre raison. Il convint de bonne grâce qu'il n'était guère possible de se couper la gorge pour une demoiselle qui se réfugiait au bal masqué, pour fuir la jalousie de son amant. Tout se passa en plaisanterie et l'affaire fut oubliée. Tu vois que le mal n'est pas grand. Non, certes, il n'y a là rien de bien grave. Bien voici maintenant ce qui arrive. Saint-Aubin, comme tu sais, voit quelquefois Madame de Vernage. Il est venu ici et à Renonval. Or, cette nuit, au moment même où la marquise, assise près de moi, écoutait de son grand air de reine toutes les folies qui me passaient par la tête, et essayait, en souriant, cette bague qui, grâce au ciel, est encore à mon doigt, sais-tu ce qu'elle imagine de me dire? Que cette histoire de bal lui a été contée, qu'elle la sait de bonne source, que Saint-Aubin adorait cette grisette, qu'il a été au désespoir de l'avoir perdue, qu'il a voulu se venger, qu'il m'a demandé raison, que j'ai reculé, qu'alors... Tristan ne put achever. Pendant quelques minutes, les deux frères marchèrent en silence. « Qu'as-tu répondu ?» dit enfin Armand. Oh, « Je lui ai répondu une chose très simple. Je lui ai dit tout bonnement, « Madame la marquise, un homme qui souffre quand notre homme lève la main sur lui impunément, s'appelle un lâche, vous le savez très bien, mais la femme, qui sachant cela ou le croyant, devient la maîtresse de ce lâche, s'appelle aussi d'un certain nom qu'il est inutile de vous dire. Et là-dessus, j'ai pris mon chapeau. Et elle ne t'a pas retenu ? Si fait, elle a d'abord voulu prendre les choses en riant et me dire que je me fâchais pour un propos en l'air. Ensuite, elle m'a demandé pardon de m'avoir offensé sans dessein. Je ne sais même pas si elle n'a pas essayé de pleurer. À tout cela, je n'ai rien répliqué, sinon que je n'attachais aucune importance à une indignité qui ne pouvait m'atteindre, qu'elle était libre de croire et de penser tout ce que bon lui semblerait, et que je ne me donnerais pas la moindre peine pour lui ôter son opinion. « Je sais, lui ai-je dit, soldat depuis 10 ans, mes camarades qui me connaissent auraient quelque peine à admettre votre compte, et par conséquent, je ne m'en soucie qu'autant qu'il faut pour le mépriser. Et est-ce là réellement ta pensée ? Y songes-tu ? Mais si je pouvais hésiter à savoir ce que j'ai à faire, c'est précisément parce que je suis soldat que je n'aurai pas deux parties à prendre. Veux-tu que je laisse une femme sans cœur plaisanter avec mon honneur et répéter demain sa misérable histoire à une coquette de son bord ou à quelqu'un de ses petits garçons à qui tu prétends qu'elle tourne la tête ? Supposes-tu que mon nom, le tien, celui de notre mère, puisse devenir un objet de risée ? Seigneur Dieu, cela fait frémir. Oui, dit Armand. Et voilà cependant les petits badinages pleins de grâce qu'inventent ces dames pour se désennuyer. Faire d'une niaiserie un roman bien noir, bien scandaleux, voilà le bon plaisir de leur cervelle creuse. Mais alors, quoi faire maintenant ? Mais je compte aller ce soir à Paris. Saint-Aubin est aussi un soldat, c'est un brave. Je suis loin de croire, Dieu m'en préserve, qu'un mot de sa part ait jamais pu donner l'idée de cette fable fabriquée par quelques femmes de chambre. Mais à coup sûr, je le ramènerai ici, et il ne sera pas plus difficile de dire tout haut la vérité qu'il me le sera à moi de l'entendre. Oui, c'est une démarche fâcheuse, pénible que je ferai là, sans nul doute. C'est une triste chose que d'aller trouver un camarade et de lui dire « On m'accuse d'avoir manqué de cœur, mais n'importe en pareille circonstance, tout est juste et doit être permis. Je te le répète, c'est notre nom que je défends, et s'il ne devait pas sortir de là pur comme de l'or, je m'arracherais moi-même la croix que je porte. Il faut que la marquise entende Saint-Aubin lui dire, en ma présence, qu'on lui a répété un sot conte et que ceux qui l'ont forgé en ont menti. Mais une fois cette explication faite, il faut que la marquise m'entende aussi à mon tour. Il faut que je lui donne bien discrètement, en termes bien polis, en tête à tête, une leçon qu'elle n'oublie jamais. Je peux avoir le petit plaisir de lui exprimer nettement ce que je pense de son orgueil et de sa ridicule pruderie. Bon, je ne prétends pas faire comme Bussy d'Amboise, qui, après avoir exposé sa vie pour aller chercher le bouquet de sa maîtresse, le lui jeta à la figure. Je m'y prendrai plus civilement. Mais quand une bonne parole produit son effet, il importe peu comment elle est dite, et je te réponds que d'ici à quelque temps, du moins, la marquise sera moins fière, moins coquette et moins hypocrite. Allons rejoindre la compagnie, dit Armand, et ce soir j'irai avec toi. Je te laisserai faire tout seul, cela va sans dire, mais si tu le permets, je serai dans la coulisse. » La marquise se disposait à retourner chez elle lorsque les deux frères reparurent. Elle se doutait vraisemblablement qu'elle avait été pour quelque chose dans leur conversation, mais son visage n'en exprimait rien. Jamais, au contraire, elle n'avait semblé plus calme et plus contente d'elle-même. Ainsi qu'il a été dit, elle s'en allait à cheval. Tristan, faisant les honneurs de la maison, s'approcha pour lui prendre le pied et la mettre en selle, et comme elle avait marché sur le sable mouillé, son brodequin était humide en sorte que l'empreinte en resta marquée sur le gant de Tristan. Dès que Madame de Vernage fut partie, Tristan ôta ce gant et le jeta à terre. « Hier, je l'aurais baisé !» dit-il à son frère. Le soir venu, les deux jeunes gens prirent la poste ensemble et allèrent coucher à Paris. Madame de Berville, toujours inquiète et toujours indulgente, comme une vraie mère qu'elle était, fit semblant de croire aux raisons qu'ils prétendirent avoir pour partir. Dès le lendemain matin, comme on le pense bien, leur premier soin fut d'aller demander M. de Saint-Aubin, capitaine de Dragon, rue Neuve-Saint-Augustin, à l'hôtel Garni où il logeait habituellement quand il était en congé. « Dieu veuille que nous le trouvions, » disait Armand. « Il est peut-être en garnison bien loin. »« Ah, mais quand il serait à Alger, » répondait Tristan, « il faut qu'il parle, ou du moins qu'il écrive. Oh, j'y mettrai 6 mois s'il le faut, mais je le trouverai, ou il dira pourquoi. » Le garçon de l'hôtel était un Anglais, chose fort commode peut-être pour les sujets de la reine Victoria, curieux de visiter Paris, mais assez gênante pour les Parisiens. À la première parole de Tristan, il répondit par l'exclamation la plus britannique « Oh !»« Voilà qui est bien, » dit Armand, plus impatient encore que son frère. « Mais monsieur de Saint-Aubin est-il ici ?»« Oh non !»« N'est-ce pas dans cette maison qu'il demeure ?»« Oh yes !»« Il est donc sorti ?»« Oh non !» « Expliquez-vous, peut-on lui parler ?»« Non, sir, impossible. »« Mais pourquoi impossible ?»« Parce qu'il est, comment dites-vous ?»« Ah, oh, il est malade. »« Oh non, il est mort. »